bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Mathieu, Pierre, Patrick et même Bertrand. Bonsoir à tous les six. Toute l'équipe de C'est à vous pour interroger le président sortant, candidat à sa réélection. 1h30 de questions-réponses à 6 jours d'un deuxième tour marqué par un risque de forte abstention, notamment de la part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et à l'avant-veille d'un débat décisif, le premier et le seul débat qui opposera les deux mêmes finalistes qu'en 2017.
Vous n'avez pas peur de ce second tour ?
Mais j'ai jamais peur, je vais au combat.
Vous allez bien ?
Très bien.
On ne peut pas continuer 5 ans de plus dans cette situation.
Donc moi, je suis le président de tous les Français.
Vous n'êtes pas du tout le président du peuple.
La retraite 65 ans, non.
La retraite à 65 ans, sur l'assurance chômage.
Mais on négociera.
Ça, on ne sera pas d'accord avec vous.
Et on discutera.
Je ne verrai rien de scandaleux à ce que la réforme des retraites fasse l'objet d'un référendum.
Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit.
Il ne le fera pas si jamais il est élu. Parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple.
Pourquoi est-ce que vous manifestez aujourd'hui ?
Pour réussir à maintenir une forme de barrage républicain, même si ce n'était pas notre premier choix.
Pour l'instant, j'hésite encore.
Parce que j'ai très peur de l'avenir.
J'hésite encore, je vous garantis. J'étais venu voir, mais ça ne m'a pas motivé pour voter pour lui, je vous le dis.
Donc au final, ni Macron, ni Le Pen.
J'ai très peur de l'élection éventuelle de Marine Le Pen.
C'est pas du tout un blanc-seing qui est donné à Emmanuel Macron.
Et j'ai très peur aussi de l'élection de Macron.
Et là, je vais voter blanc pour me dire que je fais quand même mon devoir citoyen d'aller voter. Mais ce sera ni pour M. Macron, ni pour Mme Le Pen.
Emmanuel Macron qui était samedi à Marseille et qui a joué avec les nerfs de ses sympathisants en leur avouant qu'il n'avait aucune envie de faire 5 ans de plus.
Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Non ! Je ne veux pas les faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. Ce qui se joue le 24 avril, ce qui se jouera derrière, ne doit pas être une reconduction. Une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition.
Emmanuel Macron est ce soir notre invité.
Bonjour.
Bonsoir Monsieur le Président, bienvenue sur le plateau de C'est à vous.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur le
Président. Candidat à la présidentielle, merci d'avoir accepté l'invitation de toute l'équipe de C'est à vous. Je n'ai aucune envie de faire 50 plus. Vous avez fait frémir vos sympathisants avant de les rassurer en expliquant que vous vouliez 5 ans de renouvellement complet, de réinvention, de méthodes totalement nouvelles. Est-ce que ça veut dire que votre prochain quinquennat sera tout sauf ce que les Français ont vu et connu avec vous depuis 2017?
On ne devient pas, d'abord, bonsoir à nouveau et heureux d'être parmi vous. On ne devient pas l'exact contraire de ce qu'on a été, ça n'aurait aucun sens. Mais d'abord, on apprend. Et c'est vrai que la difficulté pour un président sortant, ça a d'ailleurs un peu rythmé cette campagne, c'est vrai de tous mes prédécesseurs qui ont été dans cette même situation, c'est aussi de dire pourquoi on veut 5 ans à nouveau la confiance de nos compatriotes. C'est pas pour faire la même chose. Alors il y a eu des crises qui m'ont empêché de faire des réformes, d'avancer, des crises que nous avons vécues ensemble et face auxquelles nous avons résisté. Mais on apprend aussi des choses en profondeur sur le pays, sur la manière de faire. Et donc, en effet,
sur la manière de mener les réformes, par exemple.
Sur la manière de mener les réformes, d'associer les uns et les autres.
Pas à la hussarde, au sabre clair, c'est les mots que je vous emprunte, d'ailleurs.
Oui, j'ai dû emprunter. Alors, parfois, il y a des réformes, il faut les mener, parce qu'on sait que... Et il faut simplement toujours le dire très clairement, ce que j'ai toujours fait. Mais je pense que sur des réformes de société ou des réformes économiques, on y reviendra sans doute, la société en sortie de Covid est tellement fracturé, un peu parfois désorienté, parce qu'il y a beaucoup de... Ces deux années ont été très dures à vivre pour tout le monde. Fait qu'il faut aussi de la bienveillance. Donc la méthode doit être différente. C'est cet « avec vous » qui n'est pas qu'un slogan à mes yeux, qui est aussi une autre manière de faire au niveau le plus local.
C'est pas la également. Première fois que vous promettez de changer, voire même de vous réinventer.
Oui, pendant la crise Covid.
Projet pour le pays, c'est pas changer de cap, c'est de changer de chemin pour y arriver.
C'est pour ça que j'ai voulu ce grand débat, entre autres. Et moi, ce moment m'a transformé, aussi.
Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi, le premier.
pourquoi les Français vous croiraient là, cette fois-ci ?
D'abord parce que je l'ai fait à chaque fois. Et je pense que, ce qui est normal, hein, parce que nous avons vécu ensemble des moments différents. Après la crise des Gilets jaunes et le grand débat, j'ai pris des engagements. J'ai fait ce tour de France avec les maires, qui ont eu un rôle essentiel. Et la méthode a changé. La méthode a changé. On a, à ce moment-là, reconstruit une action au plus près du terrain, décidé d'ouvrir ces 2000 maisons France Service, décidé de complètement changer aussi notre politique fiscale en faveur des travailleurs. Les décisions que j'ai prises ont été mises en œuvre, jusqu'à aussi les réformes de la fonction publique et d'autres. Ensuite, quand j'en parle pendant la crise Covid, là aussi, nous avons changé la méthode. Le quoi qu'il en coûte n'était pas du tout, pour beaucoup de gens, dans l'ADN de ce que j'avais proposé il y a 5 ans à nos compatriotes. Je pense que c'est l'une des politiques les plus sociales que la France ait eu à conduire, que l'Europe ait eu à conduire. Et on l'a fait en associant les partenaires sociaux. Reproche, à juste titre, qui m'avait été fait au début de mon quinquennat. Eh bien, en juillet 2020, nous nous sommes collectivement réinventés. On a mis autour de la table tous les syndicats. Et les syndicats les plus réformistes ont accepté de signer quelque chose qui n'était pas du tout d'ailleurs dans l'ADN de la France, qui était une méthode pour justement préserver le travail en acceptant d'avoir de l'activité partielle. On a sauvé des emplois, on a même continué d'ancrer pendant la crise Covid en faisant une réforme qui ressemble beaucoup plus à ce que les Allemands ou les Scandinaves faisaient, parce qu'on a changé nos habitudes. Donc je crois qu'à tous les moments clés de ce quinquennat, j'ai su prendre les décisions. Je les assume et je suis là aussi pour en rendre compte et aussi changer dans la méthode quand je pensais qu'elle était adaptée.
Emmanuel Macron promet de réformer l'État, mais peut-il se réformer lui-même ? C'est la question que pose Patrick ce soir dans son édito.
Alors je vais d'abord vous montrer un dessin vieux de 60 ans et qui pourrait résumer votre pratique du pouvoir. C'est De Gaulle en basket et survêtement après le fiasco des JO de Rome. 0 médaille dans ce pays, si je ne fais pas tout. C'est signé Jacques Faizan à la une de Paris Presse. Alors vous n'êtes pas De Gaulle, Emmanuel Macron, mais vous faites tout vous-même, plus encore que lui et qu'aucun de vos prédécesseurs. Jamais, sans doute, dans cette République, le pouvoir n'a été aussi vertical, hyper concentré et, pour tout dire, solitaire. Même les conseils de défense que vos opposants vous ont reprochés n'ont souvent été que des chambres d'enregistrement de vos propres décisions. Confinement, déconfinement, réouverture des écoles, plan de vaccination, rythme et contenu des lois, des mesures et des réformes, nomination, remaniement, tout a procédé du président. Et quand ça n'a pas été le cas, chose exceptionnelle, vous avez fait savoir que les mauvaises idées n'étaient pas les vôtres. La baisse de 5 euros des APL, une connerie sans nom, avez-vous dit. La vitesse limite à 80 km/h sur les routes, une lubie d'Edouard Philippe. Le maintien du premier tour des municipales au début de la crise du Covid, votre Premier ministre encore. Alors vous me direz que vous avez été élu pour cela, pour occuper la pointe de la pyramide, que le président est comptable et responsable de toute l'action publique, mais pas au point de vous substituer à vos ministres, convoquant les préfets, engueulant les généraux, je suis votre chef, choisissant vous-même les directeurs d'administration centrale, auditionnant en tête à tête les prétendants à la tête des musées et des institutions culturelles, du Louvre à l'Opéra de Paris, pour aboutir au fait du prince, mais un prince indécis ou occupé parfois, ce qui fait que la direction de la Villa Médicis est restée vacante pendant 1 an et demi et qu'au château de Versailles, Catherine Pégard prolonge son intérim depuis plus d'un an. C'est comme si vous ne faisiez confiance à personne, sauf au premier de vos collaborateurs, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui était déjà votre bras droit à Bercy. Délégué, a dit votre épouse Brigitte à la journaliste de l'AFP, Laurence Benhamou. Mais à qui pourrait-il déléguer quand ses collaborateurs lui remettent des notes? Il vérifie tout derrière, tout vérifié, tout contrôlé. C'est donc l'Élysée qui relie et valide les interviews de ministres avant parution dans la presse, qui fait recompter le nombre de lits d'hôpitaux parce que vous doutez des chiffres du ministère de la Santé, omnipotent, omniscient, arbitre de tous les détails, jusqu'au modèle de filet de pêche, alors ce n'est qu'un exemple, hein, j'en avais des centaines, abordé au sommet de Brest sur la préservation des océans.
Il y a le sujet des tortues de mer qui sont à protéger, qui sont elles aussi trop souvent prises dans nos filets de pêche. Et là aussi, nous allons déployer les solutions qui existent, en particulier les fameux TED, pas les fameuses TED conférences, mais les Turtle Excluder Device, qui sont qui vont permettre ces nouvelles générations de filets qui permettent aux tortues, au fond, de s'échapper et de ne pas être prises.
Alors c'est sans doute très intéressant, mais est-ce le rôle du président ? On vous a pris pour Jupiter, et je me demande si vous n'êtes pas Shiva. c'est-à-dire le duo aux quatre bras est doté d'un troisième œil, veillant à tout, s'occupant de tout, pendant que vos ministres découvrent parfois vos décisions à la télévision. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de concertation, mais Laurent Berger de la CFDT a ainsi résumé la méthode Macron. Vous discutez et je tranche. Et personne ne sait de quel côté ça va tomber. C'est ce qui différencie la consultation d'une délibération. C'est aussi ce que votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle la monarchie technocratique. En disant cela, il visait davantage les technocrates que le monarque. Mais si vous êtes réélu dimanche, cesserez-vous d'être monarque ?
Alors, d'abord, le principe, c'est que quand on est élu par le peuple, on n'est pas monarque. La deuxième chose, j'assume tout. Et j'ai noté ce que vous disiez sur le 80 km/h, les appels hautes. Moi, j'assume les choses qui passent. On prend, et d'ailleurs, c'est aussi une des transformations de notre démocratie. Le quinquennat et le phasage de l'élection présidentielle avec l'élection législative fait que c'est le président qui prend tout. Ça n'a pas commencé avec moi. Mon prédécesseur, mon antéprédécesseur, depuis que le quinquennat est ainsi fait, ça marche comme ça dans notre pays. Ensuite, sur les nominations que vous évoquiez, c'est normal, c'est de par la Constitution. C'est le président de la République qui nomme en Conseil des ministres, sur proposition de ses ministres, des noms.
Les vos prédécesseurs, le plus souvent, suivaient les avis, les recommandations de leur ministre de la Culture.
Il y a plusieurs choix qui sont donnés, c'est normal d'auditionner. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est des passe-plats. Et général, puisque vous l'avez montré en caricature dans ses mémoires, je crois que François Mitterrand faisait pareil, d'ailleurs, c'était beaucoup plus terrible que moi, de manière régulière, il rayait des noms de gens qu'il ne connaissait pas du tout pour montrer qu'il ne fallait pas leur en passer comme ça. Donc, heureusement que je fais de par la Constitution ce qui m'est demandé de faire, c'est-à-dire les nominations qui passent en Conseil des ministres. Quand elles ne passent pas en Conseil des ministres, ce n'est pas le président qui nomme et je ne m'en mêle pas.
Est-ce que vous pouvez concéder que vous ne déléguez pas beaucoup et que vous ne délibérez pas beaucoup ?
Mais je pense qu'on a vécu des crises. D'abord, je pense qu'au début, ce que disait Laurent Berger valait plus tôt, puisque c'est une citation de février 2018. Aller plutôt pour le début du quinquennat, c'est vrai. J'ai été élu, j'ai dit je ferai une réforme de travail par ordonnance, je pensais qu'il fallait le faire. Bilan des courses d'ailleurs, on ne parle pas du tout de chômage dans cette campagne présidentielle. Je le prends comme un signe d'efficacité. Ça veut dire que ce problème qui était partout en 2016-2017, il n'est pas réglé, malheureusement. Mais je peux moi m'engager sur le plein emploi, mais ça a été efficace. Par contre, après on a changé. Je parlais de la réforme des retraites où il y a eu une très longue consultation. Après, ensuite, il y a eu la crise Covid qui l'a arrêtée.
49-3 à l'Assemblée.
Oui, mais ça, ce n'est pas du tout un problème de concertation. D'abord, c'est pas avec les syndicats. C'est en effet parce qu'il y avait une obstruction à l'Assemblée avec des milliers d'amendements. Et le Premier ministre m'a demandé de pouvoir engager le 49-3 et je l'ai accordé. Puis, il y a eu la crise Covid, donc on l'a suspendu. Et ensuite, comme je le disais, pendant la crise Covid, nous n'avons jamais cessé, à mon niveau, mais encore plus au niveau du Premier ministre et des ministres, de concerter. Après, surtout quand il y a des crises et des guerres, comme ce qu'on vit depuis maintenant 2 ans et demi, oui, c'est pas illégitime qu'il y ait beaucoup de choses qui remontent. Parce qu'on prend des décisions. Maintenant, les conseils de défense, ce sont des conseils qui sont instruits par les ministres et par tous les services qui sont en charge de mener les opérations. Il y a des longs débats, ils durent des heures, ces conseils de défense.
Qui vous ont fait changer d'avis, qui vous ont fait prendre des décisions opposées à celles que vous pensez plusieurs prendre fois. En entrant en conseil de défense.
Plusieurs fois. Ils sont préparés, mais quand ça dure 2 heures et demie, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Donc ces conseils, on en a fait, plus de 80 au total. Donc, je prends mes responsabilités. Je ne vais pas dire ceci n'est pas moi, ça se faisait avant, je pense que ça ne marche plus. Après, je pense que j'ai appris à davantage concerter. Ce que je veux faire,
par exemple, sur la réforme des retraites, avec qui vous allez discuter? Parce que le report de l'âge de la retraite, tous les syndicats y sont opposés.
La réforme des retraites, je pense que si on regarde les choses, d'abord, il y a les faits. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi on veut faire une réforme et à quelle fin.
Pour sauver le système.
Donc c'est un des exemples. Après, je voudrais revenir sur l'école et sur la santé qui montre que la méthode que je veux pouvoir adopter est beaucoup plus associante des acteurs de terrain. Mais la réforme des retraites. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Nous payons pour les retraités. C'est depuis 45 le cas. Nous avons une démographie qui fait ce qui est une chance, qu'on vit de plus en plus longtemps et qu'on rentre d'ailleurs de plus en plus tard dans le monde du travail. Tous nos pays voisins, d'ailleurs, ont décalé leur âge légal quand vous regardez les choses, parce qu'il y a un déséquilibre. Le corps, qui il y a 5 ans disait qu'il n'y avait pas de problème d'âge. Maintenant, nous dit, vous avez un déficit jusqu'au milieu des années 30. Chaque déficit qu'on accepte, c'est du report sur la collectivité, c'est-à-dire sur nos enfants. Le système des retraites n'est pas fait pour être déséquilibré. À ça s'ajoutent les améliorations qu'on veut faire sur notre système social. Bon. Donc moi, je veux pouvoir... Donc, une fois que c'est déséquilibré, on a plusieurs moyens de faire. Soit on dit, on augmente les charges pour ceux qui travaillent. Je suis contre, je pense que c'est mauvais pour l'emploi et la compétitivité. Il y a une autre manière de faire qui est de dire, on va dégrader les retraites, ce qui est le programme caché de l'extrême droite, puisqu'elle ne veut pas toucher l'âge. Moi, je dis au contraire, je pense qu'il faut augmenter les retraites. Donc, dès le 1er juillet, je veux pouvoir réindexer les retraites sur l'inflation, plus 4%, et je veux pouvoir monter le minimum retraite, enfin plus exactement...
À 1100 euros.
La retraite minimale de quelqu'un qui a toute sa carrière, qui est aujourd'hui 980 euros par mois, à 1100 euros par mois.
Ça, c'est si la réforme des retraites est adoptée.
Mais pour faire ça, plus pour pouvoir mener la réforme que je veux pouvoir conduire sur l'autonomie, le grand âge, notre modèle social, je ne veux pas augmenter les impôts. Parce que, une fois qu'on a dit tout ça, comment on le finance? On pourrait dire, on va augmenter les impôts. Je ne veux pas les augmenter, je veux les baisser. De 15 milliards durant ce quinquennat. Moitié pour les ménages, moitié pour les entreprises. J'ai une crédibilité. J'avais dit il y a 5 ans que je le ferais, je l'ai fait. Malgré les crises, etc., on a baissé de 50 milliards les impôts dans notre pays. Bon. Il y a une autre manière de faire, qui est de dire d'augmenter la dette. Je ne veux pas augmenter la dette. Je veux même qu'on commence à la rembourser sous ce quinquennat. Donc on baisse d'abord le déficit courant, puis qu'on la rembourse. Donc il n'y a qu'un moyen de réussir, c'est de travailler davantage. Et pour ça, il y a deux méthodes qui sont complémentaires. L'une, d'aller vers le plein emploi, c'est-à-dire de continuer les réformes du marché du travail, d'indemnisation chômage. On a réussi à passer d'un taux de chômage... On a créé 1 200 000 emplois sous ce quinquennat net. Donc on est passé de 9,6 à 7,4. Si on fait le même effort... On arrive au plein emploi quasiment dans notre pays. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de travailler un peu plus longtemps et donc de décaler de 4 mois par an l'âge légal. Mais en le faisant progressivement, et il y a beaucoup de choses qui sont à mettre à la concertation. D'abord, est-ce qu'on a des clauses de revoyure ou pas? C'est ça ce que j'ai ouvert la semaine dernière. Ce que j'avais dit initialement, 65 ans. Si vous regardez les choses, et c'est d'ailleurs dans mon programme écrit de cette manière-là, c'est 65 ans à horizon 2031. Donc la question est s'il y a une clause de revoyure. En fait, on est à 64 ans en 2028. Ça peut être un élément de discussion. La deuxième chose, c'est qu'en face de ça, qu'est-ce qu'on fait pour les carrières longues? Je dis, moi, je suis favorable à ce qu'on garde un dispositif, qui est que les gens qui ont commencé à travailler tôt puissent partir plus tôt. Concertation. Concertation aussi pour dire, avec ça, comment on finance la pénibilité individuelle? Et à quel rythme on met fin et sous quelle modalité au régime spécial, qui est aussi un engagement que je prends. Donc, il y a beaucoup d'éléments de concertation. Le plus important pour moi étant d'ailleurs aussi... Comment on gère les fins de carrière, qui est un très beau sujet de concertation porté par plusieurs syndicats depuis longtemps, parce qu'on a réussi à réduire très fortement le taux de chômage des seniors dans le quinquennat qui vient de s'achever, mais on voit bien que plus on amène...
Si on augmente l'âge de départ à la retraite, il y aura plus de seniors au chômage.
En fait, alors c'est non, ça. C'est l'inverse, en fait, quand on regarde les voisins. D'abord, nous, on a baissé de 20% dans ce quinquennat. Et en fait, quand vous regardez les pays qui ont fait des réformes, à chaque fois, le taux d'activité des seniors a suivi le taux de décalage. Pourquoi? Parce que le chômage des seniors est aussi beaucoup dû à des mécanismes de pré-retraite qui sont utilisés par les entreprises. Plus vous le décalez, plus elles décalent ces mécanismes. Donc c'est plutôt vérifié partout où ces réformes ont été faites chez nos voisins. Par contre, vous ne pouvez pas faire le même travail pour beaucoup de gens jusqu'au bout. Il y a la prise en compte de ce qu'on appelle la pénibilité pour pouvoir partir plus tôt. Quand vous faites des métiers très durs, physique, où il y a des troubles musculo-squelettiques, qui dans des abattoirs, qui comme transporteur routier, qui en travail de nuit ou autre, vous devez pouvoir là, gagner des trimestres où, entre guillemets, pour prendre le vocabulaire militaire, vous faites campagne.
Vous avez fait annuler des critères au début de votre quinquennat de pénibilité,
c'est tout à fait juste.
Auquel la CFDT tenait particulièrement.
Oui, mais en expliquant d'ailleurs avec elle pourquoi, parce que c'était des critères qui recréaient des régimes spéciaux. C'est d'ailleurs la différence que je fais dans mon programme aujourd'hui, en les réindividualisant et en proposant de réinvestir sur la médecine du travail. Sinon, on recrée des... Nos régimes spéciaux sont nés sur ces critères. Et ces régimes-là ont conduit à faire, en fait, des catégories en fonction des secteurs. Pourquoi on a décidé et on a fait voter la fin du régime spécial qu'avait la SNCF et que dans mon projet, je propose de faire pareil pour celles et ceux qui sont dans l'énergie? Parce que ça ne correspond plus à une réalité de pénibilité du travail. Il faut que ces critères soient beaucoup plus individualisés et correspondent à vos tâches. Donc ça sera à la négociation. Mais à côté de ça, ce qui est un autre sujet, je le distingue, penser la fin de carrière, c'est autre chose. C'est-à-dire, même si vous avez ces bonus, après 50 ans, c'est très dur d'être transporteur routier. Et donc, il faut pouvoir vous proposer quelque chose pour vous reconvertir. Il y a même des métiers où ce n'est pas de la pénibilité à proprement parler, mais où, nerveusement, c'est très dur. Par exemple, d'être enseignant dans des classes qui sont très dissipées, dans des quartiers qui sont très dissipés, il faut plutôt le proposer à des enseignements jeunes ou volontaires. et proposer des fins de carrière à des enseignants où ils pourront avoir des classes dédoublées dans des secteurs où c'est plus tranquille, leur proposer aussi des reconversions pour aller faire du tutorat ou autre dans les dernières années. Penser la fin de carrière dans notre société et permettre d'avoir justement beaucoup plus de souplesse va dans le sens de cette réforme. Et un point important dont on parle trop peu, c'est aussi permettre, et ça c'est un très beau sujet de négociation qui sera concerté avec tous les partenaires sociaux, en prenant le temps dans les premiers mois du quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est de pouvoir dire, en fin de carrière, je dois pouvoir, si je le veux, commencer à réduire mon temps de travail et toucher une partie de ma retraite, et donc avoir en fait la possibilité d'avoir en sifflet, si je puis dire, un début de cessation d'activité, et je dois pouvoir beaucoup plus simplement cumuler de la retraite à un emploi, parce que pour beaucoup de gens, partir à la retraite, ça coupe, c'est coupé trop vite. Mmh. Et beaucoup de gens veulent pouvoir cumuler en cumulant des cotisations pour améliorer leur pension, ce qui est aujourd'hui bloqué, en tout cas beaucoup trop contraint. Et donc ça, je veux pouvoir aussi l'ouvrir pour que des gens qui, après, même en ayant une retraite complète, puissent continuer à travailler, qui 15 heures, 20 heures, 25 heures par semaine s'ils le veulent, en ayant des cotisations et en pouvant améliorer leur retraite pour la suite.
Puisque vous parlez de négociation et de concertation, vous promettez des méthodes complètement nouvelles, que votre fameux « avec vous » ne reste pas qu'un slogan, mais des méthodes nouvelles, il y en a eu durant votre quinquennat, je pense par exemple à la Convention citoyenne sur le climat, c'était inédit, 150 Français tirés au sort, 149 propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui sortira de cette convention, vous l'aviez promis, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Sauf que ce sans filtre, il est devenu pour les membres de cette convention le sans filtre CENT. Et ils étaient assez déçus, voire irrités. Écoutez.
Les mesures de la Convention citoyenne ont été un peu rabotées, elles ont été modifiées, et forcément, ça a créé de la déception. Donc là, les citoyens, ils ont voulu secouer un peu le cocotier.
On s'est foutu de nous, moi, je dis. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous a fait perdre notre temps pendant 8 week-ends. On nous a miroité plein de choses et puis on s'aperçoit qu'à la fin, bah, c'est comme d'habitude, c'est les gens qui sont au gouvernement ou les gens qui ont les pouvoirs qui décident.
Ils ont adapté finalement les propositions qu'on avait faites dans des mesurettes, c'est-à-dire ils ont écouté les lobbies, nous on en est persuadés, ils ont écouté les industriels, ceux qui avaient finalement tout intérêt à ce que ça ne change pas.
Si on regarde le suivi aujourd'hui, il y a 87 mesures sur les 146 qui ont été mises en œuvre. Effectivement, on est un peu loin du sans-filtre, elles ont été réécrites, certaines allégé. La mesure phare qui était d'inscrire la protection du climat dans la Constitution n'a jamais eu lieu puisqu'il n'y a pas eu d'accès au référendum pour les questions de Constitution. Comment ne pas penser que les prochaines conventions citoyennes, vous en promettez une sur la fin de vie, ne subissent pas le même sort?
Alors, d'abord parce que c'est un exercice qui serait très différent. Moi, j'assume d'avoir, durant ce quinquennat, innové avec le grand débat, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'avait fait, ou avec la Convention citoyenne pour le climat. Et vous avez, votre petit graphique le montrait bien, il n'y en a que trois qui ont été complètement retirés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont avec beaucoup, beaucoup de propositions et que les parlementaires, à juste titre, ont dit « Vous ne pouvez pas nous retirer, nous, on a une légitimité, les citoyens ne l'ont pas. Tout n'était pas du niveau référendaire, donc on a appliqué le maximum et il y en a encore qui restent à appliquer. Mais il y a beaucoup de choses très structurantes qui sortent de cette convention. De la définition de l'écocide dans notre droit jusqu'à des contraintes très fortes qui ont été mises, par exemple, sur les transports aériens quand il y avait des substitutions de lignes de TGV. Enfin, contrairement à ce qui a été dit par un monsieur dans le reportage, on n'a pas cédé à beaucoup de lobbies. Simplement, parfois aussi, il faut concilier. C'est ce qui est très dur dans la transition climatique. Il faut concilier des contraires
et, vous ferez comment, alors, pour
et des gens qui sont respectables.
Pour la santé, qu'est-ce que...
Alors, la Convention citoyenne, ce que j'ai appris, c'est ma faute là, hein, complète, j'assume aussi, c'est que, en fait, le sujet était trop large. Et donc, en mettant un sujet très large, il y avait plus d'une centaine de propositions, en tout cas une centaine environ. Il y a quand même plus de la moitié, comme vous l'avez dit, qui sont déjà ou appliquées en cours d'application et ça va se compléter, que trois retirés. Et vous avez des gens qui, si tout n'est pas pris, disent bah, « ça vaut rien ». Ce n'est pas vrai. Ils ont quand même fait beaucoup progresser les choses. Mais ce que j'ai appris des Irlandais, qui pratiquent la Convention citoyenne depuis plus longtemps que nous, c'est qu'en fait, ça marche très bien quand la question est précise. Et c'est vrai. Et donc, sur la fin de vie, ce que je propose, qui est une méthode de convention citoyenne, là, la question est précise. C'est un sujet. Et donc, c'est différent parce que ça permet de construire du consensus sur un sujet qui divise la société et qui inquiète et qui permet ainsi de présenter ou au Parlement ou au peuple français eh bien, quelque chose qui
et
est préparé par des citoyens.
Et quelle sera la question soumise à la convention citoyenne?
L'évolution, justement, de la fin de vie, ce sera proposer un projet. Les Irlandais l'ont fait sur l'IVG, par exemple, qui divisait beaucoup sur l'interruption volontaire de grossesse.
Là, la question, ce sera, faut-il légaliser l'euthanasie, par exemple?
Alors, la formulation, je
sera différente, mais ce sera l'idée.
À dire, mais on a une loi Claes-Leonetti qui a fait beaucoup d'avancées, qui a été vraiment un très grand travail transpartisan, qui est insuffisamment connu et appliqué. Le comité d'éthique a fait beaucoup de travaux, donc je proposerais qu'il formule la question et qu'ensuite, il y a un travail comme dans une convention citoyenne où on forme les citoyens, puis ils débattent pour qu'ils puissent proposer un élément de sortie. Donc ce sera de nature très différente. Mais la méthode que je veux proposer ne passe pas par les conventions citoyennes, parce que ce qui me frappe, c'est que nos compatriotes, on le voit bien, on vit un drôle de moment de la démocratie. Nos compatriotes veulent être associés, on veut leur demander leur avis, ils veulent qu'on leur demande leur avis. Mais en même temps, comme dirait l'autre, on voit qu'il y a de l'abstention, que quand on les sollicite, ils ne sont pas toujours là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que nos compatriotes veulent être associés à l'action quand ça touche leur vie. Et c'est avec vous que je veux pouvoir justement mettre en place. C'est ça, sa différence. C'est au fond de dire, sur l'école et la santé en particulier, les situations sont très diverses partout sur le territoire. Et donc, on doit se donner des objectifs nationaux, donner des moyens au niveau national, et ensuite laisser au niveau de la commune ou de l'intercommunalité, quand on est dans le très rural, les gens construire les solutions entre eux, en se disant l'objectif est de mettre fin au désert médical que vous avez là, l'objectif est de mieux former nos enfants à l'école primaire. De quelle méthode avez-vous besoin? Quels sont les éléments dont vous avez besoin dans le cadre qui vous est donné? Si on laisse les gens s'approprier les choses, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire avec Marseille en grand que j'ai lancé il y a quelques mois, je peux vous dire que là, les gens se sentent associés. Ils n'ont plus le sentiment que ce sont des circulaires qui tombent de Paris.
Une question de Pierre.
Si on prend les difficultés de la démocratie française sous l'angle des institutions et d'abord de la Constitution, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'un mot en commençant, vous seriez favorable à un retour au septennat? Ce serait une manière de, comme une poutre maîtresse temporelle qui restructurerait le fonctionnement et même les plans à moyen et long terme?
Alors d'abord, en méthode, sur la réforme de la Constitution, j'ai échoué à la réformer parce que je n'ai pas eu le consensus transpartisan. Et les réformes de la Constitution ne sont possibles que quand vous avez une majorité et à l'Assemblée et au Sénat, ce qui n'était pas mon cas durant ce mandat, puisqu'il vous faut, contrairement à ce qui est parfois dit par candidates d'extrême droite, on ne peut pas changer la Constitution par référendum direct. Il faut d'abord un texte qui soit approuvé par les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat dans les mêmes termes. Et à ce moment-là, vous pouvez soit le passer en Congrès avec un vote des 3/5, soit aller au référendum. Je n'ai pas réussi à faire ce chemin. Donc en méthode, apprenant de l'expérience, là aussi, je dis qu'il faut mieux d'abord une commission transpartisane. Donc ce que je dis est un avis, une mise de départ, mais je pense que c'est important que toutes les forces politiques, y compris d'ailleurs celles qui ne sont peut-être pas toutes représentées à l'Assemblée aujourd'hui, puissent dire leurs mots. Je constate que le phasage parfait de la présidentielle et des législatives est bien conduit, comme M. Cohen le disait, mais en me mettant tout sur le dos, à une présidentialisation de fait du régime. C'est une
Donc
réalité.
Vous voulez déprésidentialiser?
Non, je suis pour choisir. Moi, je suis plutôt pour un régime présidentiel. Mais parce que je trouve que notre pays a plutôt cette culture. Mais en tout cas, il faut que ce soit clair. Et si vous voulez, dans un régime présidentiel, il y a à ce moment-là des contre-pouvoirs plus clairement établis de votre Parlement. Là, on est dans un entre-deux où, dans les faits, le fait que ce soit au même moment fait que l'Assemblée est clairement élue dans le souffle de la présidentielle et que, du coup, tout procède beaucoup plus. Or, quand on regarde le domaine réservé du président, que ce soit les affaires étrangères, la défense, quand on regarde le reste du monde aussi, il y a un besoin de temps long. Et donc, je pense que c'est mieux. La deuxième chose, et je le dis après 5 années aux manettes, avoir une respiration démocratique et l'idée qu'il y a un rendez-vous pour nos compatriotes est important. Qu'il y a un rendez-vous au milieu, ou en tout cas, si ce n'est un hémistiche. Oui. Je pense que c'est assez sain dans une démocratie de pouvoir dire on lui donne des responsabilités définies par la Constitution, mais on sait qu'il y a une clause de rendez-vous avant qu'il termine, ou elle termine. C'est pas mal.
Dans 2 jours, vous serez face, comme en 2017, à Marine Le Pen, devant des millions de Français, avec pour arbitrer le débat Léa Salamé pour France 2, Gilles Boulot pour TF1. C'est un duo que vous avez approuvé, vous avez eu votre mot à dire?
Ah, les deux candidats ont été consultés, mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur.
C'est un peu la convention de consulter les candidats. Est-ce que c'est une convention qu'il faut maintenir à l'avenir? Est-ce que vraiment...
C'est-à-dire que ça marche s'il n'y a pas une liste rouge trop longue. J'ai compris que...
Vous n'avez aucun nom de journaliste sur votre liste rouge?
Non, aucun. D'ailleurs, je n'ai récusé aucune et aucun confrère à vous. Et je n'ai jamais d'ailleurs trié les journalistes pendant mon
quinquennat. Aux conférences de presse?
Non, mais je pense que démocratiquement, c'est un problème et... J'ai compris que vous étiez aussi sur liste rouge.
Si Patrick a été récusé, notamment
si je suivais bien. Non, mais c'est un drôle d'exercice à ce moment-là. Donc moi, je suis resté dans la position qui me semble être celle qu'on doit avoir, c'est-à-dire que les deux principales chaînes, une du secteur public, une du secteur privé, proposent. Je considère que ce sont des professionnels mérités, reconnus, et la même chose pour les réalisateurs. Voilà.
En 2017, certains vous reprochaient de ne pas avoir l'envergure d'un président de la République. Votre âge, votre inexpérience. Marine Le Pen, vous diriez qu'elle a l'envergure d'une présidente de la République? Femme d'État, comme ce qui est indiqué sur son affiche?
Je suis attaché à la démocratie, donc je pense que c'est aux Françaises et aux Français de le dire, pas à moi. Moi, je combats ces idées, mais je les combats avec respect, et je n'ai pas disqualifié Madame Le Pen qui est en face de moi pour ce second tour. Elle a été qualifiée par les Françaises et les Français pour être là. Et donc, c'est les Françaises et les Français qui diront dimanche prochain ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent.
Dimanche, il faudra séduire les abstentionnistes, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les plus jeunes électeurs qui, quand ils ne se sont pas abstenus, ont voté, en tout cas pour un tiers d'entre eux, en faveur de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'objet de la story de Mohamed Bouabsi.
Monsieur le Président.
Mohamed.
Bonsoir. Cette dalle, vous allez la reconnaître, monsieur le Président. C'est à Argenteuil, dans le Val d'Oise, que Nicolas Sarkozy avait promis de nettoyer la racaille. En 2005, nous y sommes retournés ce matin, près de 17 ans après. Pas grand-chose n'a changé, monsieur le Président. 30% de chômage dans ce quartier, 17% dans toute la ville. Le commissariat, la poste, tout comme le centre de sécurité sociale, ont fermé. Et ici, un électeur sur deux a voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Face à l'éclatement plutôt de la gauche, la seule personne qui s'imposait, vraiment qui s'imposait à moi, c'était Jean-Luc Mélenchon.
C'est l'un des seuls candidats qui a pris parti, qui a défendu les musulmans, qui a défendu les banlieues, qui a défendu les gens comme nous, quoi, nos semblables.
Si c'est une ville de droite, donc qui répond pas forcément aux besoins des jeunes et notamment des quartiers populaires, du coup Mélenchon il a su parler à cette classe-là et ils se sont sentis écoutés.
Plusieurs habitants estiment avoir été déçus par votre politique envers la jeunesse et les quartiers.
Moi, j'y ai cru la première année. Puis je me suis vite rendu compte que c'était du réchauffé, c'était une politique de droite.
Il nous a fait un petit coup de bluff, un bel orateur qui est arrivé, qui a su conquérir tout le monde, conquérir les banlieues, conquérir les grandes villes, et qui arrivait au pouvoir à tout changer.
On voit bien qu'en 5 ans, sur le quartier de la Dalle, il n'y a pas grand-chose qui a changé, notamment en politique en termes de l'emploi, de la formation, alors que Macron avait fait quand même beaucoup de promesses.
Mais aucun jeune croisé ce matin ne glissera le butin Marine Le Pen dans l'urne. Ils font barrage au Rassemblement national. Pour autant, leur vote ne vous est pas acquis dimanche.
Moi, je vais voter blanc. Je ne peux pas cautionner ce discours du vote barrage à Marine Le Pen. S'il y avait un barrage, c'était à Macron de le faire. Il ne l'a pas fait.
Malgré tout, je ferai barrage, moi.
Pour
Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Bah, je suis fils d'immigré, je suis banlieusard, je suis musulman. Je crois que je coche toutes les cases qu'ils détestent.
Franchement, je sais pas quoi faire. J'attends le pire. Et entre me dire, j'ai pas envie de voter blanc parce que voter blanc, ça sert à rien. Mais voter Macron, ça m'enchante pas du tout. Si je le fais, c'est vraiment par dépit.
Je vais voter ce qu'il faut pour qu'elle, elle passe pas. Donc si c'est Macron, ça va être Macron.
Imran a 19 ans, il est étudiant en prépa commerce. Il a souhaité vous interpeller sur un sujet, monsieur le Président.
On n'a jamais vu autant de jeunes faire la queue pour manger un sandwich en triangle, pour juste vivre. On n'a jamais vu ça, j'ai jamais vu ça personnellement. J'ai pas eu besoin d'aller dans ces centres où on récupère à manger, etc. Mais j'ai vu à Paris, j'ai vu comme tout le monde. C'est aberrant de voir ça en France.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Imran? Et dans le prolongement du sujet, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes indécis que j'ai rencontrés ce matin?
Alors d'abord, je veux défendre ce qu'on a fait dans nos banlieues, dans nos quartiers durant ces 5 années. J'avais pris un engagement pour l'éducation qui a été tenu. C'est-à-dire qu'on avait, ce que je crois être le premier investissement le plus important, diviser le nombre d'élèves par deux dans les classes de CPCE1 sur les REP et REP+. Et on l'a étendu aux grandes maternelles. Maintenant, il faut continuer ce travail sur le reste du primaire, surtout sur le collège et le lycée. On l'a fait aussi avec les plus de 30 000 stages de 3e, parce que c'était une injustice qu'il y avait dans nos quartiers. On a développé des cités éducatives, avec des vrais résultats. On a développé l'apprentissage, pas simplement dans nos quartiers, mais avec beaucoup d'efficacité dans les quartiers, parce que c'est là qu'il y a la plus grande assignation à résidence. Et derrière, on a recommencé à développer des filières éducatives et de supérieures en ouvrant plusieurs d'entre elles dans nos quartiers. Et le taux de chômage y a baissé durant ces 5 années, plus que dans la moyenne nationale. Donc il y a un bilan qui est là. Sur la rénovation urbaine, Argenteuil fait partie des dalles qui avaient été refaites. Mais j'ai entendu beaucoup de critiques. Quand j'ai été élu, il y a 5 ans, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine avait un budget de 5 milliards d'euros. Monsieur Klein, qui est maire de Clichy-sous-Bois, qui en est le président, pourra vous le dire, le budget est maintenant de 12 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il y a l'équivalent de 48 milliards d'euros de travaux dans nos quartiers pour faire de la rénovation urbaine. Ce qui veut dire même davantage que ce qu'il y a eu au début des années 2000, dans les grandes années de la rénovation urbaine et du premier plan Borloo. Donc le boulot, il est là en train de se faire. Ça ne va pas assez vite, simplement, quand on vit dans des quartiers, la grande difficulté. J'en ai conscience. Et il en est d'ailleurs des inégalités sociales comme de l'écologie. Si j'ai appris une chose dans ces 5 années, c'est chaque minute de temps que vous perdez ou d'habitude administrative que vous laissez s'installer, c'est une minute que vous laissez à l'aquabonisme, au scepticisme ou aux extrêmes. Parce que si la vie des gens ne change pas de manière concrète, les gens disent, il est comme les autres. Donc, on a un vrai résultat, il y a plein de choses qui ont été faites, mais ça n'a pas changé assez vite, assez fort. Donc moi, je veux aller beaucoup plus loin. La question d'Imran, maintenant, de manière très directe. Aucun pays n'a autant aidé ses étudiants que le nôtre pendant la crise Covid. D'abord, on a un tiers quasiment de nos étudiants qui sont boursiers. Deuxièmement, on a fait le repas à 1 euro au Crous, y compris pour les non-boursiers qui le demandaient. Les fils qu'on a eus, et on a essayé de les gérer, je remercie beaucoup les associations, les Crous et le CNUS qui nous ont aidés à cet égard, étaient pour beaucoup, il faut bien le dire, des étudiants étrangers qui n'avaient pas accès à ces bourses-là et qui se retrouvaient en France avec des situations très difficiles. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de continuer à travailler avec Campus France. Mmh. Mais on a beaucoup aidé les étudiants pendant cette période pour pouvoir se nourrir. Maintenant, l'une des choses qu'on a sur le SUP, et que je veux dire à nos jeunes qui viennent des quartiers ou ailleurs, on a un gros problème sur le logement étudiant et en effet les revenus. C'est ça ce à quoi renvoie Imran. Et donc, on va continuer d'abord d'accompagner comme on l'a fait, puisqu'on a baissé de 125 euros par an la sécurité sociale étudiante qui existait quand j'ai été élu. Deux, contrairement aux fausses informations qui ont été propagées par certains, on ne va pas rendre les études supérieures payantes. Mais surtout, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. C'est quand vous êtes boursier, on ne prend en compte, la plupart du temps en particulier, pour calculer à côté vos aides au logement, la situation financière de vos parents. Et nous avons 40% des jeunes boursiers qui ont des aides au logement insuffisantes et qui, du coup, sont sous le seuil de pauvreté parce qu'ils décohabitent. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus chez leurs parents. Ça correspond à des jeunes qui, bien souvent, ne peuvent pas suivre un premier cycle universitaire dans la ville où leurs parents habitent. C'est là où il y a une vraie inégalité qui se pose, parce que les aides sont mal faites. Et c'est l'une des réformes que je veux pouvoir faire, c'est-à-dire réformer nos bourses et les aides au logement pour mieux accompagner nos jeunes étudiants qui, en particulier, vont étudier dans des villes où leurs parents n'habitent pas et donc où il faut les aider davantage, en particulier sur la partie logement.
Il nous reste un quart d'heure pour parler d'écologie, mais vous dites quoi à ceux qui ne veulent pas aller se déplacer dimanche?
D'abord, je leur dis...
Il y avait une émission de radio qui demandait ce matin si c'était lâche de ne pas aller voter au second tour.
Je pense que c'est un devoir, moi, le vote, parce que beaucoup se sont battus pour qu'on ait ce droit. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Deux, à 1500 km, moins de 2000 km d'ici, la démocratie est bombardée. La démocratie, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas un luxe, c'est choisir vos dirigeants. Bon. Donc, il faut le défendre et il faut qu'on montre que ça a du sens.
Mais là, ceux qui ne veulent pas voter pour vous, vous leur dites quoi? De mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, ce n'est pas voter pour Emmanuel Macron?
Non, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas appeler les gens à ne pas voter pour moi. Mais je pense que ce qui est
très... Ce n'est pas ma question.
Non. Mais je dis, c'est la démocratie, c'est un devoir. Ensuite, je leur dis, repensez à ce que les citoyens britanniques, quelques heures avant le Brexit, se disaient. Ou ceux qui, en 2016... aux États-Unis, avant que le vote Trump n'arrive, se disait, je ne vais pas y aller, à quoi ça sert, tout ça. Je peux vous dire que le lendemain, parce que d'autres avaient choisi quelque chose qui leur paraissait impensable, était devenu, ils ont regretté de ne pas aller voter. Donc si vous voulez éviter l'impensable ou quelque chose qui vous rebute, choisissez pour vous-même. Et comme je le dis souvent, M. Blanc, ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions en période de crise. Et la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'installe, je trouve, dans notre débat démocratique qui est malsain, qui est au fond de dire si ça n'est pas exactement mes idées parfaitement, ça ne vaut rien. La démocratie, c'est le fruit de consensus, de compromis permanents. Et donc au premier tour, vous votez pour le projet qui vous correspond le mieux, vous choisissez. Et au deuxième tour, forcément, il n'y a plus tous les projets, il n'y en a que deux. Et donc vous choisissez celui dont vous êtes le plus proche, ou vous éliminez, comme on dit souvent, c'est-à-dire vous faites barrage. C'est aussi vieux que la démocratie, ce qu'on va vivre. Je crois qu'il faut simplement, il faut sortir d'une espèce de fantasme de la pureté. Il n'y a pas de projet politique pur, parce que personne ne pense exactement comme moi. Et donc la démocratie, c'est de savoir comment on va cheminer tous ensemble, différents, avec des vies, des intérêts, des aspirations qui sont différentes pour construire quelque chose de commun. Parce que le plus important, c'est de continuer d'avoir des idéaux pour vivre ensemble.
Le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Je perds plus une seconde là.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Président.
Votre campagne, Emmanuel Macron, a pris un tournant très vert samedi à Marseille.
Oui, et même si ce n'était pas un des axes les plus forts de votre campagne de 2017 contre le réchauffement climatique, ce quinquennat démarrait plutôt bien.
To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the President of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. Make our planet great again.
By polluting the oceans, not mitigating CO2 emissions, and destroying our biodiversity, we are killing our planet. Let us face it, there is no planet B.
Avec l'accord de Paris pour cadre et avec Donald Trump et l'industrie chinoise aussi pour épouvantail, mais avec quelque temps, les choses se sont compliquées.
Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non.
Si bien qu'aujourd'hui, face à la menace du réchauffement et avec de tels enjeux, les Français les plus sensibles à la cause climatique ont parfois du mal à vous faire confiance.
Il a été complètement inactif sur le climat malgré ses beaux discours. On peut difficilement faire pire en fait que les cinq dernières années. Le programme qu'il porte pour les cinq prochaines années, il est toujours très mauvais. S'il est réélu dimanche, il a cinq ans pour changer radicalement la donne. Et nous, on va être derrière pour essayer de faire pression un maximum sur lui et son prochain gouvernement pour ne pas faire comme les cinq dernières années qui ont été perdues pour le climat.
Ce soir, à 6 jours du second tour, c'est bien cette question de confiance qui se pose. Samedi, à Marseille, vous avez assumé votre bilan.
Nous avons été deux fois plus vite que durant les deux quinquennats qui précédaient pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons diminué de 12% nos émissions de gaz à effet de serre en 5 ans. Ça, c'est pour dire que l'inaction, pas chez moi.
Pour ceux qui vous attendent sur cette question précise du climat et qui nous regardent ce soir, dans quel calendrier est-ce que vous vous inscrivez? 2050, comme écrit dans votre programme, dans les 3 ans de l'alerte du GIEC, ou alors dans le cadre des 2 condamnations de l'État, l'affaire du siècle, vous savez, et donc dans les quelques mois que donne le tribunal administratif de Paris, qui, je cite, enjoint le Premier ministre et les ministres compétents à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice écologique avant le 31 décembre 2022.
Tout ça s'emboîte. D'abord, merci d'avoir rappelé que si la France n'avait pas agi, d'abord, c'est François Hollande, 2015, on n'aurait pas eu les accords de Paris. Et puis en 2017, il se serait démantelé. Et donc, nous nous sommes battus, on a été suivis par les Européens, on a réussi à convaincre, avec le recul, la Russie et la Turquie de signer puis ratifier ce qu'ils n'avaient pas fait dans la période, et les États-Unis sont revenus. Ça, c'est la diplomatie climatique, mais elle est importante. Pareil sur la biodiversité, où nous avons pris l'initiative, dès janvier 2021, de lancer le cadre en termes de biodiversité face à une COP de Kunming qui, en raison du Covid, était plus difficile. Au niveau franco-français, les condamnations, je le dis souvent, elles regardent quand même la période jusqu'en 2018. Donc je veux bien tout prendre, mais je...
La suite est plus complexe.
Non, mais la suite, les résultats sont meilleurs. Donc les condamnations, elles valent surtout sur la période passée. Et pas tant sur le quinquennat de votre serviteur.
En bonne partie grâce à la crise sanitaire.
Non, alors après...
Projetons-nous.
Parce qu'on ressort toujours sur ces condamnations, donc je préfère être clair sur
le fait... C'est 2015-2018.
Merci de le dire, je suis... Et donc, j'ai pas pu beaucoup agir avant cette période. Ensuite, on a un bilan, puisqu'on a réussi. C'est tout à fait vrai que la crise Covid y a aidé, parce qu'elle a ralenti l'activité. Mais enfin, on a réussi à créer 1 200 000 emplois dans cette période, malgré la crise Covid, ce qui montre bien qu'on n'a pas arrêté complètement l'activité.
Oui, c'est 2020.
Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à structurer des instruments pour répondre à tout ça. On a aidé 1 million de nos compatriotes à changer de véhicule pour aller vers du moins polluant. On a rénové beaucoup de logements, 650 000 en 2021. Je pense qu'on aura à peu près le même chiffre en 2022. On a commencé la conversion d'un modèle. Donc moi, l'ambition que j'ai, elle est très claire, c'est d'aller... on a été collectivement deux fois plus vite durant ce quinquennat. Il faut aller deux fois plus vite encore que celui-ci sur le prochain. C'est-à-dire quatre fois plus vite que ce qu'on faisait avant.
Quelle sera première mesure ?
C'est un changement de logiciel. La première mesure, ce sera de nommer un Premier ministre qui aura en charge le climat. C'est-à-dire... La seule manière de réussir, c'est de dire c'est au cœur de la politique. Je prenais cet exemple.
Vous avez déjà eu un numéro 2, hein, c'était Nicolas Hulot.
Oui, mais ça change tout. Hein,
numéro
c'est tout à fait vrai, ce qui vous montre d'ailleurs que l'engagement était là. Et c'est très dur de faire changer les choses. C'est très dur. Mais si ce n'est pas un choix symbolique de faire ça, c'est de se dire quand la République a eu à faire face aux défis éducatifs, le président du Conseil, Ferry, a été en même temps ministre de l'Instruction. Eh bien, de la même manière, le Premier ministre sera en charge de la transition et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et il aura à ses côtés, je détaillais ce plan samedi, un ministre en charge justement de la planification énergétique et un ministre en charge de la planification territoriale. Alors, ça, c'est la première chose.
On va revenir à ce discours de samedi à Marseille. Vous avez entamé ce qu'on peut appeler un virage écolo dans la campagne, en tout cas.
J'ai précisé comment mettre en œuvre ce deux fois plus vite. Sinon, vous m'auriez dit, on ne vous croit pas une seconde.
On retourne à Marseille.
Nous n'avons plus à attendre et nous ne pouvons plus attendre. Nous le savons.
Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Nous nous sommes engagés à diviser par 2 le rythme de l'artificialisation des sols. Cette fête de la nature, comme nous avons su faire une fête de la musique, pourrait se tenir... Au printemps, par exemple, le 4e samedi de mai, c'est bien un choix de civilisation. Bâtir un avenir en commun ou le mettre en péril ?
Bon, je ne reviens pas, on ne va pas s'étendre sur la fête de la nature qui existe déjà. Peut-être qu'il y a autre chose qui pourrait
se proposer. Non, mais là, ce que je propose, beaucoup plus structurant.
Évidemment. Alors, simplement sur la réalisation vidéo du meeting qui était effectué par vos équipes, quand vous parlez d'écologie et de votre gouvernement, on voit beaucoup Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. C'est un indice ?
Non, mais parce qu'il se trouve qu'il était là. À mes côtés, c'est pour ça que vous l'avez vu.
C'est déjà une qualité.
C'est une qualité. Et il a aidé et accompagné le monde agricole à mener une transition importante. Parce que là aussi, ça ne va jamais assez vite, je comprends tout à fait. Mais si on prend notre agriculture, elle est en train de conduire une des révolutions les plus structurantes des dernières décennies. Parce qu'on doit continuer à nourrir le peuple français, comme on l'a fait pendant la crise Covid. On doit continuer à nourrir, parce qu'on va avoir à vivre une crise alimentaire, liée d'ailleurs à la guerre en Ukraine, qui va être un des sujets des 12-18 prochains mois les plus structurants, qui va toucher l'Afrique et le Proche-Orient. Donc on va devoir continuer à produire en protégeant. On ne peut pas le faire sans les agriculteurs, c'est ce qu'il a fait à mes côtés, aux côtés du Premier ministre ces dernières années. On a baissé de 93% les produits les plus préoccupants. On a aidé justement cette nouvelle révolution par la robotique, le biocontrôle,
Précisément, pour parler d'agriculture et de biodiversité, puisque vous l'évoquiez auparavant, je ne vais pas reprendre chaque débat molécule par molécule. Il y a le glyphosate, il y a les néonicotinoïdes, mais ces débats, vous les avez déjà expliqués, ces décisions, et ce sont de longs débats à chaque fois. Mais pour les Français, justement, qui vous regardent, une question sur le modèle, et vous avez commencé à l'esquisser. Oui. Pour l'agriculture, vous promettez dans votre programme un investissement massif dans l'innovation, la robotique, le numérique, la sélection variétale. Alors, c'est un domaine où en même temps, est parfois un peu difficile, voire impossible. Est-ce que vous êtes un défenseur d'un modèle high-tech, mais toujours productiviste, assumé ? Ou est-ce que vous prenez un retour à une agriculture à taille humaine, comme certains le demandent, de plus petites exploitations, moins d'industrie dans l'agriculture ?
Mais vous savez, la France a déjà tous ces modèles. Je ne suis pas pour un modèle unique. On est un trop grand pays agricole pour avoir un seul modèle. Ça ne marchera jamais. Il faut se représenter qu'aujourd'hui, notre pays est une très grande puissance agricole. On en a besoin, je le disais, pour nous-mêmes et pour continuer à nourrir d'autres. Ensuite, nous n'avons pas, enfin très peu, et quand on regarde les choses par rapport aux autres Européens, en particulier l'Allemagne. L'Allemagne a plusieurs modèles, surtout l'Allemagne de l'Est, avec des très grandes exploitations. Et même les Pays-Bas ou d'autres ont fait des très grandes exploitations. Nous, on a certains de nos agriculteurs qui ont des modèles qui sont plus intensifs que d'autres. Mais on a une agriculture qui est très plurielle. Et il faut garder cette richesse. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est éviter d'avoir moins d'agriculteurs. En effet, quand on regarde les 10 dernières années, nous n'avons pas perdu de surface agricole utile. Mais à chaque fois qu'un agriculteur, enfin trop souvent quand un agriculteur est parti à la retraite, ça s'est remembré.
Et beaucoup
alors, à la retraite justement. Il y en a environ, chaque année on en a des nouveaux, 12 à 13 000. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien. au contraire. Mais si on veut faire face à une transition démographique du monde agricole, il faut que dans les prochaines années, on ait 20 000 agriculteurs qui se réengagent. On voit qu'il y a des vocations dans nos lycées agricoles qui sont un formidable modèle, ils ont envie. Simplement, il faut les aider. C'est pourquoi, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une loi d'orientation et d'avenir où on va continuer à investir sur la formation, mais aider le portage du foncier et les premières années pour nos jeunes agriculteurs. C'est ça qui est très dur. Et les aider ensuite à moderniser. Deuxième chose, je regarde le chemin qu'on a fait ces 5 dernières années. On a doublé la surface de bio. Aujourd'hui, la France est en surface le premier pays bio d'Europe. On doit continuer ce chemin, mais le faire de manière intelligente. En accompagnant et sans doute en étant encore plus volontariste sur notre capacité à accompagner celles et ceux qui font la conversion. Mais les aider aussi à trouver un marché. Parce que les difficultés qu'on a vues ces derniers temps, c'est qu'il y a une partie des marchés qui ont été fragilisés. C'est aussi pour ça que je propose d'accompagner les ménages qui ont le moins de moyens pour pouvoir acheter le bio et le circuit court qui parfois coûtent un peu plus cher. Bon. Et puis, on a très fortement augmenté la haute valeur environnementale pour nos surfaces. Donc c'est une transition. Mais elle se fait en investissant. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a besoin de continuer à avoir des agriculteurs, de continuer à garder cette diversité du modèle français qui va avec nos paysages. Parce que les paysages de bocage, comme on a dans l'Ouest français, on n'a pas envie que ce soit remembré, que tout soit fichu. De continuer à replanter des haies, à faire de la biodiversité, mais à ce que ce soit un modèle rentable pour nos agriculteurs. Et donc pour ça, ce n'est pas l'injonction, c'est l'investissement la solution. C'est ce qu'on a fait avec le plan de relance, c'est ce qu'on va faire avec France 2030. Dans France 2030, il y a notre agriculture. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire accompagner nos agriculteurs pour qu'ils puissent se passer des phytosanitaires quand il y a un substitut, aider à robotiser, investir dans la recherche. Typiquement, nos viticulteurs, ils peuvent se passer du glyphosate. Si on les aide à avoir des cépages qui sont résistants.
Il nous reste 50 secondes.
Un dernier mot éventuellement, puisque précisément sur le meeting de Marseille, vous l'avez précisé, on n'ira pas dans la décroissance. Notre défi est de faire une économie plus écologique, pas moins d'économie. Une question économique justement, les 5 plus gros financeurs de l'industrie pétrolière, parmi eux se trouvent 3 banques françaises, la BNP, le Crédit Agricole et la Société Générale. Est-ce qu'on va interdire aux banques françaises le financement des énergies carbonées ou est-ce qu'elles peuvent continuer à faire du vert à l'intérieur de la France et à salir à l'extérieur?
Alors, il faut répondre en moins de 30 secondes.
D'abord, nous, on a mis en cohérence tous nos financements publics. Première chose, tout ce qui dépend de l'État, on est sorti et on ne finance plus même le gaz. Bon. Deuxième chose, et donc ça vaut pour l'Agence française de développement, elle reste. Deuxième chose, le changement qu'il faut faire, c'est au niveau européen, c'est la bataille qu'on mène, celle qui va permettre de mettre dans les notations de nos établissements financiers, le critère environnemental. C'est comme ça qu'on change. Sinon, on pénalise que les banques françaises. Elles seront remplacées par des banques voisines pour faire ce boulot.
C'est pas une bonne mesure. Merci beaucoup d'avoir répondu.
Le combat climatique est un combat européen. C'est pour
ça que
je dis...
N'obligez pas le service public à vous couper la parole, monsieur le président de la République.
C'est ce qui hésite.
C'est ce qui va se passer.
C'est une honte.
La pub va partir, on va vous couper.
Non, mais je dis, pour convaincre ceux qui hésitent, il y a un référendum clair le 24 avril. C'est que la candidate d'extrême droite, elle est contre l'Europe et contre le climat. Votre serviteur.
Voilà, on continue à parler avec Emmanuel Macron, le conflit en Ukraine, la place de la culture dans votre éventuel prochain quinquennat, la question du grand âge avec toute l'équipe et aussi avec Bertrand Chameroy qui nous a promis un dispositif exceptionnel face au président candidat. Les actualités de Bertrand à suivre. À tout de suite.